Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin posaient les pieds sur la Lune. 10 autres hommes les ont suivis dans les 3 ans, puis plus rien. Enfin, presque. En tout cas, aucun autre être humain. Problème budgétaire, désintérêt du public, oui, mais pas que. La décision politique de Kennedy d'envoyer des hommes sur la Lune avait été réalisée. Les Soviétiques disaient clairement que leur ambition n'était pas d'être sur leurs traces. Alors à quoi bon continuer et pourquoi ? Les temps étaient revenus à quelque chose de plus raisonnable, c'est-à-dire de mieux connaître l'environnement proche de la Terre avant de se lancer dans d'autres aventures périlleuses. Cela n'a pas empêché que chaque planète rôdant autour du Soleil soit visitée par des engins spatiaux, Vénus et surtout Mars en premier. Cela n'a pas empêché d'envoyer 2 sondes voyageurs dans l'espace, désormais hors du système solaire. Et maintenant, où en est-on ? Lorsqu'on pense que les ordinateurs de bord d'Apollo 11 avaient une puissance qui se comptait en octets, on se dit que ce devrait être facile d'aborder la petite cousine de la Terre facilement. À ce jour, 572 personnes sont allées dans l'espace. C'est presque un jeu d'enfant. En fait, c'est peu et beaucoup. On est passé d'une compétition entre 2 superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, à une coopération entre nations. Même s'il existe encore un challenge à réaliser des performances pour chaque pays, l'entraide est à l'ordre du jour. Pour preuve, la Station spatiale internationale consacrée à la recherche scientifique. C'est bien un des seuls domaines où des compétences entre Russes, Américains, Japonais et Européens sont mises en œuvre. Cette station permet entre autres d'acquérir de l'expérience pour des longs séjours dans l'espace. C'est en filigrane ce que l'homme aura besoin s'il veut un jour se projeter par exemple sur Mars. Certes, il reste encore beaucoup de défis techniques à surmonter, mais on peut dorénavant prévoir que cet objectif d'emmener des astronautes sur Mars pourrait se réaliser d'ici une 20aine d'années. En attendant, l'objectif Lune, comme terrain d'essai, pourrait se renouveler d'ici 5 à 6 ans, avec, pourquoi pas, l'idée d'en faire une base de lancement pour d'autres destinations. La NASA n'a plus les budgets faciles comme lorsqu'il s'agissait de lancer un défi, c'est pourquoi elle incite le secteur privé à investir dans des voyages payants afin d'arriver à diminuer des coûts qui s'avèrent de toute façon exorbitants. Une intense compétition entre multimilliardaires anime les ambitions. Leur but ultime n'est plus la recherche scientifique, mais que les engins spatiaux rapportent bel et bien de l'argent, soit en mettant sur orbite d'autres fortunés, soit tout simplement en exploitant des ressources précieuses sur les astéroïdes. Des sociétés telles Rocket Lab et SpaceX sont sur les rangs. À Dubaï, la compagnie Emirates a déjà transformé une zone désertique en hub aérien mondial avec comme projet d'installer le premier cosmotropolis du monde capable d'accueillir des vaisseaux spatiaux et des avions super et même hypersoniques. Jeff Bezos n'a-t-il pas affirmé que le système solaire peut facilement subvenir aux besoins d'un billion, soit 1 000 milliards d'êtres humains, parmi lesquels, dit-il, il devrait y avoir au moins 1 000 Einstein et 1 000 Mozart. Richard Branson, propriétaire de Virgin Galactic, lui, annonce fièrement « Nous ouvrons l'espace afin de changer le monde pour de bon ». Pour ces lanceurs de slogans, aller dans l'espace, c'est sauver la Terre. Essayons de les croire, après tout, selon les spécialistes, ne sommes-nous pas aux portes du 2.0 de l'ère spatiale ?